Série que j'avais entamée avec vous sur la voie de Jésus. J'aimerais qu'on lise dans Luc 18. Mon but, c'est vraiment qu'on rentre dans le texte. Laissez-vous interpeller par les paroles de Jésus. Un chef, Luc 18, verset 18. Où un notable lui demanda, à Jésus, « Bon maître, Luc 18, 18, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu ça, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus lui dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Jésus prit les 12 avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les Juifs au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-Juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. » Et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta, ordonna qu'on lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà Jésus qui parle avec trois personnes différentes. Et vous savez, quand Jésus parle, pour entendre sa voix, nous avons deux grands moyens. Nous avons sa parole dans la Bible, qui continue de nous parler aujourd'hui, et c'est peut-être le principal moyen, il ne faut jamais qu'on l'oublie. Elle est là, elle est disponible, on peut l'utiliser tant qu'on veut, mais aussi le Saint-Esprit, par lequel Jésus continue de nous parler. Et souvent, ce n'est pas deux choses dissociées, parce que souvent le Saint-Esprit parle au travers de la parole. Dans Jean 15, 26, il est dit « L'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'Esprit rend témoignage de Jésus. Et dans son dernier voyage à Jérusalem, Luc, dans son évangile, va mettre en scène trois personnes. C'est les trois dernières personnes que Jésus va rencontrer avant d'entrer à Jérusalem. Et je les ai mis ensemble, je n'ai pas respecté l'ordre des chapitres. Vous savez que l'ordre des chapitres n'est pas forcément inspiré. Et je ne pense pas qu'il soit inspiré là. Parce que ces trois personnes, elles sont un peu isolées, comme les trois dernières rencontres de Jésus avant la Passion. Trois hommes, le jeune homme riche, l'aveugle de Jéricho et Zachée, qui entendent la voix de Jésus dans leur vie. Marc et Matthieu les mettent aussi, sauf que Marc et Matthieu ne parlent pas de Zachée, pas du tout. Et c'est Luc qui a introduit Zachée. Mais Marc et Matthieu mettent aussi le jeune homme riche et l'aveugle de Jéricho juste avant la semaine de la Passion. Et chacun de ces hommes est interpellé par Jésus dans quatre domaines spécifiques. On a vu la dernière fois que Jésus va déjà nous assurer que nous sommes aimés. On a pris le temps dans l'introduction de ce culte, dans cette première partie, à nous rappeler que le Père nous aimait, que Jésus nous aimait. Le témoignage de l'Esprit va se faire d'une deuxième manière, il va nous convaincre de pécher. Il va nous convaincre de pécher, il va renouveler ensuite notre pensée, il va donner des conseils et des directives lorsque des choix s'imposent pour nous. Et nous, on pense souvent que l'Esprit est là pour nous donner des conseils, pour nous annoncer des choses, ce qui est tout à fait vrai, mais je crois que c'est trop limité. Il nous inspire déjà l'amour de Dieu, il nous témoigne de l'amour de Dieu. Et ce matin, je voudrais voir comment il nous convainc de pécher. Et quand je parle de ça, je sais que je ne suis pas forcément le bienvenu parce que c'est peut-être pas le thème qu'on préfère, la conviction de péché, mais c'est tellement important. Jésus, quand il parle du Saint-Esprit, il va dire quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est un des rôles du Saint-Esprit de nous convaincre du péché. La Bible parle du péché comme aucun autre livre au monde, je crois, ne parle du péché. Jésus est envoyé en mission dans le monde à cause du péché. S'il n'y avait pas eu le péché, Jésus ne serait pas venu, il n'avait pas besoin de venir. Le péché, ça vient vraiment du cœur de l'homme. Cherchez pas ailleurs. On est tellement tendance à accuser les autres. Tellement tendance à trouver une raison autour de nous. Il vient de notre cœur, le péché. Le péché, il va nous amener à réaliser que derrière, nous sommes en révolte contre Dieu. Parce que le péché, c'est vraiment, le fond du péché, c'est une révolte contre Dieu. Ne le minimisons pas. Et toujours dans cette idée, ne minimisons pas ça parce que le péché est vraiment destructeur. Il détruit l'homme. Et notre relation intime avec Jésus n'est possible que parce qu'on s'attaque au péché. Parce que si on ne s'attaque pas au péché dans notre vie, notre relation avec Christ, notre relation avec Dieu va être brisée, cassée. L'Esprit donc veut nous convaincre de péché, mais ceci n'est possible que si on réalise l'amour de Dieu. Alors je sais bien qu'on peut être convaincu de péché parce qu'on nous a promis les foudres de Dieu, la mort éternelle, etc., parce qu'on a peur de la mort. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui va nous aider pour le reste de nos jours. Parce que je crois avant tout, on a besoin de réaliser la cause, enfin, le point essentiel pour notre vie, c'est que Dieu nous aime. C'est que nous sommes aimés de Dieu. Et je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas de vraie repentance profonde et durable sans déjà comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Il va nous amener à réaliser que nous sommes coupables devant Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va nous convaincre de la vraie culpabilité. Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Que quand nous regardons ça, jeudi soir, on avait une réunion on avait notre semaine de jeûne et prière, on avait une réunion d'écoute de Dieu, un temps de louange, et j'étais tellement touché à un moment donné par la dignité de Jésus, la dignité de Dieu. Il est digne, hein, vous savez, ces textes de l'Apocalypse, et le Seigneur m'a repris par rapport à cette dignité, et par rapport à cet amour d'un Dieu si digne qui vient s'offrir, que ça a mis comme un coup de projecteur sur mon indignité à moi. Parce que je me rendais compte de sa dignité, de son amour, de ce qu'il avait fait, tout d'un coup je me rendais compte de mon indignité. Et la troisième chose, c'est qu'il va nous conduire à la liberté, parce qu'on n'est pas fait pour rester dans la culpabilité, mais on est fait pour que cette culpabilité nous permette d'être pardonné et d'être libre. Parce qu'une fois que nous avons réalisé ça, nous pouvons vraiment faire l'expérience du pardon et de la guérison. Il va nous permettre de recevoir l'Esprit. Donc ces trois choses sont vraiment fondamentales. Amour de Dieu, culpabilité et liberté. L'aveugle de Jéricho, c'est le quatrième et dernier miracle de Jésus dans son voyage à Jérusalem. C'est un homme pauvre, mis à l'écart de la société. Le texte ne dit pas qu'il a péché. Il n'y a pas de péché apparent chez lui. En tout cas, le texte n'en parle pas. C'est un homme qui entend Jésus, toute l'effervescence d'un Jésus qui va passer, et les gens qui font du bruit, qui se pressent. On lui dit « c'est Jésus de Nazareth qui passe ». C'est cet homme qui va crier « Jésus, aie pitié de moi, fils de David ». Et c'est Jésus qui va lui dire « mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Voilà un homme à qui on va demander son avis. Voilà un homme auquel Jésus va demander son avis. Qu'est-ce que tu veux exactement? Un avis qui va lui permettre d'expérimenter l'amour de Jésus. Et moi, je me mets à la place de cet homme. Qu'est-ce que je demande? Je n'ai pas un sou. Je suis mis au banc de la société. Peut-être que j'aurais besoin d'argent, de reconnaissance sociale, de logement, d'un repas, je sais pas, d'un CDI, d'un chien d'aveugle, ou je sais pas quoi, des aides sociales. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient passer dans sa tête. Il va répondre, Seigneur, que je retrouve la vue. C'est un aveugle qui est capable de voir où est son besoin prioritaire, qui ne se perd pas dans les besoins secondaires. Vous savez, on peut être aveugle sur beaucoup de choses dans notre vie, aveugle sur les bontés de Dieu, aveugle dans notre foi, aveugle dans notre manière de le suivre. On est peut-être obnubilé par nos besoins secondaires, obnubilé par ce qui n'est pas prioritaire dans notre vie. Cet homme, il n'a pas de péché apparent, il est pauvre, aveugle, mendiant, mais ce n'est pas parce qu'il est comme ça qu'il est meilleur qu'un autre. Il a simplement besoin d'ouvrir ses yeux sur sa réalité. J'entends tellement de gens me dire « Que fait Dieu pour mes besoins psychiques ? Que fait Dieu pour mes besoins affectifs ? Que fait Dieu dans ma santé ?» J'ai tellement envie de dire « Oui, c'est vrai, c'est des besoins, mais ce sont nos besoins secondaires. » Et je ne veux pas être dur en le disant, mais c'est tellement important de s'en rendre compte. Ce sont des besoins secondaires. Ne nous méprenons pas sur nos besoins. En fait, la conviction de péché, c'est reconnaître vraiment son état. C'est reconnaître qu'on qu'on a besoin de recouvrir la vue, qu'on a besoin de réaliser finalement qui on est réellement. Et vous dites, c'est peut-être ça, c'est pour un nouveau chrétien. Le texte dit qu'il recouvra la vue, c'est-à-dire auparavant il voyait pas, et auparavant il voyait, pardon, il avait perdu cette capacité. On peut avoir perdu notre vision correcte de notre état. Est-ce que nous faisons régulièrement cette prière ? Accorde-moi la conviction de péché. J'ai besoin de retrouver une bonne vue sur mon état. Je disais jeudi soir, j'étais vraiment touché par le Seigneur sur ma dignité. Vendredi soir, on avait une soirée de louange. Et j'étais là, j'étais complètement sec. Et j'ai dû dire au Seigneur, pardonne-moi ma sécheresse. Il n'y avait pas 24 heures qui s'étaient écoulées. Et j'ai dit, mais est-ce qu'on est pauvre et fragile, quoi ? Est-ce qu'on est juste incapable, des fois, de rencontrer le Seigneur ? Et c'était moi, pour X raisons, parce que j'avais plein de choses dans ma tête, et j'avais besoin, à ce moment-là, de dire, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à recouvrir la vue sur mon état maintenant. Pas celui d'hier, c'était celui d'hier, c'est celui d'aujourd'hui qui compte. N'oubliez pas que cet aveugle, une fois qu'il a recouvert la vue, il restait toujours aussi pauvre, il restait toujours isolé des hommes, probablement pas marié, pas d'enfant, parce qu'il devait faire la manche et personne ne pouvait subvenir à ses besoins. Mais il s'était décentré de ses besoins secondaires. Il avait donné vraiment la priorité à Jésus. Et là, il avait retrouvé sa liberté, parce qu'il est possible maintenant pour lui de suivre Jésus. Et il va dire, au verset 43, il a dit, il suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Pourtant, il avait d'autres choses à faire, quoi. Il avait vraiment d'autres choses à faire. Et il met la priorité. Alors, quand nous crions à Dieu, aie pitié de moi, est-ce que nous sommes prêts à ce qu'il change notre prière et qu'il nous ressente sur nos vrais besoins ? C'est-à-dire la restauration d'une vraie relation avec lui. Qu'il ouvre les yeux sur l'état de notre cœur. Il y a un deuxième exemple dans ce texte sur la conviction de péché, c'est Zachée. Alors, Zachée, vous en avez entendu parler, chef collecteur des impôts, il rançonne les gens pour faire sa caisse perso, en même temps qu'il alimente le trésor de guerre des Romains. Il ne pouvait pas voir Jésus, il monte sur son arbre, qui était de petite taille. Un homme assez détestable, hein. Il avait un petit pouvoir, et avec ce petit pouvoir, il le prenait pour abuser des autres, pour extorquer de l'argent. Et comme il monte sur un arbre pour mieux voir, il avait tendance à prendre cette petite domination qu'il avait sur les autres pour mieux les voler. Et lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, à cet homme détestable, franchement, je pense qu'on aurait eu du mal de lui causer. Il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée va obéir à Jésus car il est touché par le regard, il est touché par la parole de Jésus qui s'invite chez lui. Il est touché par son amour. Personne ne voulait entretenir de relation avec cet homme. Un homme seul, ce Zachée. Jésus veut s'arrêter dans sa maison. Enfin, quelqu'un qu'il aime. Comme il est. Enfin, quelqu'un qui peut faire descendre Zachée de son arbre. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, va faire descendre Zachée de son arbre. Avant de redonner, avant toute chose, il doit descendre de son arbre. Comme l'aveugle qui accepte que sa priorité, c'est recouvrir la vue, Zachée va accepter que sa priorité, c'est de descendre de l'arbre. Descendre au niveau des autres, et même en dessous, parce qu'il est plus petit que les autres. Cette descente de l'arbre, pour moi, c'est la conversion de Zachée. Elle commence là. Il est convaincu d'être aimé, il est convaincu que sa manière d'abuser des autres est un péché. Et on va le voir libre, libre de l'accueillir Jésus, avec joie. On verra aussi plus tard libre de redonner ses biens. Je crois que nous sommes appelés à redescendre de notre arbre. J'ai discuté avec un responsable d'église il y a quelque temps qui est en conflit avec quelqu'un de son église et qui voulait que cette personne, qui avait de l'amertume contre cette personne qui avait mal parlé de lui, n'était lui-même pas gêné de mal parler de lui, en disant il est insupportable et de dire tout ce qu'il avait sur lui. On discutait sur le fait de descendre de son arbre. À un moment donné, commencer par descendre soi avant de faire descendre les autres. Commencer par voir ce qui ne va pas dans notre vie. Alors, il y a des pièges dans la conviction de péché. Il y a des pièges, et un des premiers, ça va être ce que j'appelle surfer sur le péché. C'est penser que ce n'est pas si grave. Dans Romains 3, 23, il est dit « Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. » Le sentiment du péché, la conviction de péché dans nos vies, c'est un cadeau en fait. Comme la douleur, c'est un cadeau pour s'empêcher de se faire mal. Quand nous approchons du feu et que ça fait mal, on retire sa main. Et c'est un cadeau de Dieu, la douleur, dans ce sens-là. Parce que ça nous empêche d'aller plus loin dans la destruction. Et le sentiment, la conviction de péché, c'est un cadeau de Dieu pour nous empêcher d'aller trop loin. Et notre tendance un peu naturelle, c'est de minimiser la puissance du péché. Le jeune homme riche est vraiment là-dedans. Il va dire, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Je fais tout, Seigneur. Regarde comme je suis bon. Regarde tout le bien que je fais. Et il y a juste un petit truc là, Jésus lui dit. Vends tout ce que tu as. Donne tout, puis tu auras tout respecté. Juste un tout petit péché. Tu aimes un peu trop tes richesses. En fait, ce jeune homme avait cette incapacité de voir que ses richesses l'empêchaient de rencontrer Dieu. Parce qu'il avait ce péché qu'il ne voulait pas confesser, qui ne voulait pas abandonner. Vous savez, nos richesses, ça peut être nos biens matériels, nos facultés intellectuelles, nos liens familiaux, notre position sociale. Et ils vont venir et comme mettre une impossibilité de recevoir l'amour de Dieu et d'être libre. Tant de choses qui font que nous sommes riches de quelque chose et qu'on ne veut pas remettre à Dieu. On a chanté « Je te donne tout », mais c'est très compliqué de tout donner. Et Jésus va lui dire « Qu'est-ce qui est plus important ?» Ce que tu as, tes richesses, ou c'est moi et me suivre? Et il va être incapable à ce moment-là de dire je te suis et je laisse tout pour toi. Et ce qui est terrible, c'est que derrière, il va être tout triste, il ne peut pas être libre. Une autre manière de surfer, je dirais, sur le péché en le minimisant, c'est de classer en niveau. Il y a les grands péchés et il y a les petits péchés. Et pour ce jeune homme riche, ce n'était pas un si grand péché. Mais Saint-Esprit va souvent nous parler de notre attitude, notre impatience, notre anxiété, notre colère, notre orgueil, notre égocentrisme. Et nous, on aime bien se concentrer sur les grosses choses, mais tout ce qu'on omet, tout ce qu'on néglige dans nos vies, le Saint-Esprit vient nous parler. Une autre manière, c'est surfer sur le péché des autres, et s'occuper du péché des autres. Pour Zachée, tout le monde est en train de causer sur le fait que Jésus va manger avec un pécheur. Et le texte dans Luc, il est succulent, enfin moi je trouve. Hein. En voyant cela, tous murmuraient en disant « il est allé me loger chez un homme pécheur ». Comme s'ils n'étaient pas pécheurs eux-mêmes. Vous savez, on est tellement convaincu du péché des autres et tellement peu convaincu du sien. Alors on sourit de voir ces gens parler sur Zachée, mais on est tellement proche. Quand nous avons des problèmes avec quelqu'un, notre prière, c'est « change-le, Seigneur ». Et notre prière devrait plutôt être dire « Qu'est-ce que tu dois changer en moi, Seigneur, dans cette relation difficile ?» Un autre piège dont j'aimerais parler, c'est la culpabilité. De Corinthiens 7:10, « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Il y a la vraie et la fausse culpabilité. On a besoin d'une vraie culpabilité qu'on confesse et dont on est délivré. Il y a cette fausse culpabilité où on se laisse condamner sans fin par les autres ou par le diable, où on est toujours en train de dire « j'y arriverai pas », on revient toujours avec les mêmes péchés qu'on a confessés. Je crois qu'on a le devoir de dire « Dieu nous en a libérés, ne revenons pas avec ça, ils ont été confessés. Confessons les péchés d'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. N'oublions pas ça. » Mais aussi, un des risques, c'est quand on se laisse embourber dans sa culpabilité, c'est parce qu'on dit nos fautes sont trop nombreuses, je suis trop mauvais, j'y arrive pas, je suis écrasé par le poids de mes fautes, etc. J'aime beaucoup ce texte où Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. On ne peut pas tout porter en même temps. Moi, je suis frappé quand quelqu'un accepte Christ, comment il met cette conviction de péché dans les cœurs et comment il montre une chose à la fois. Il n'écrase pas les gens en disant « Tu ne vaux rien, regarde tout, tu dois tout nettoyer. » Une chose à la fois. Quand on a chanté « Je te donne tout, Seigneur », c'est très juste. Et en même temps, ça peut être trop lourd. Avant de tout donner, j'ai envie de dire, donnons une chose. Ça commence par ça, tout donner. Donnez une chose. Déjà ça. Si aujourd'hui nous avons pu donner une chose à Christ, si aujourd'hui nous avons pu confesser un péché, celui pour lequel le Saint-Esprit met sa lumière, ne confessons pas ceux des autres, ne confessons pas tout ce qui nous touche, mais confessons ce pourquoi le Saint-Esprit nous appelle. Parce que il est fondamental de répondre à la voix de l'Esprit dans nos cœurs et de régler les choses comme elles viennent, sans se culpabiliser pour tout à la fois. Jésus respecte notre temps, respecte qui nous sommes, respecte notre besoin d'un certain temps pour que les choses soient confessées. Alors, si vous avez une chose que l'Esprit révèle, juste celle-là, commencez par ça. Puis la dernière chose sur les pièges, c'est bottir en touche. Souvent on entend dire « Oh, la vie chrétienne c'est trop facile ». Vous faites n'importe quoi, un péché, un meurtre, un vol, puis vous pardonnez, vous demandez pardon et c'est fini. Vous savez, au Laos, ils fabriquaient des pièces de soie, des grandes pièces qu'ils tissaient, et ça prenait des semaines et des semaines de travail. Et vous arriviez au marché, et vous donniez un billet de 20 euros, ou 10 euros, puis vous aviez la pièce de soie pour vous en une minute. C'est pareil pour le pardon. Pour nous, c'est très simple à recevoir, à acquérir. Mais Dieu, pour ça, a vraiment révélé au monde un amour qui est extraordinaire. Des souffrances qui sont juste inconcevables pour nous, les humains. Il a donné du temps, il a donné de la sueur, il a offert Jésus, son Fils, pour offrir le pardon au monde et bâtir l'Église. Après des millénaires d'attente, l'envoi de tant de prophètes, l'envoi de Jésus sur terre, c'est ça le pardon de Dieu. Si je fais une paraphrase de Philippiens 2, je lirai comme ça. Lui qui était Dieu, il a pris la forme d'un homme, personne ne l'a obligé. Il l'a fait de son plein gré. Il s'est fait l'esclave des hommes, il a humilié son âme jusqu'à connaître la mort infâme d'un criminel crucifié. On l'a insulté, battu, trahi, il n'a rien dit, tel un agneau qu'on mène à la boucherie. Tout cela pour nous offrir le pardon, pour nous introduire dans la présence de Dieu. Alors recevoir le pardon, c'est aussi simple, effectivement, qu'acheter une pièce de soie au marché, c'est même plus simple, ça prend quelques secondes. Et ça nous coûte 0 €. Mais ça a tant coûté à Dieu, tant coûté au Christ. Accepter le pardon, c'est vraiment prendre conscience de l'immense amour de Dieu pour nous, mis à notre disposition. Et je termine juste avec ça. Notre chance, c'est que quand il met la conviction de péché, quand on évite certains pièges, c'est très simple, il suffit de le confesser. C'est tellement simple et tellement dur, mais tellement simple. Des fois, il ne faut pas compliquer les choses. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais c'est juste vrai. On a tellement d'habitude que ou on ne le fait plus, ou on pense que ce n'est pas vrai, ou on pense que ce n'est pas complètement libéré, mais c'est tellement important. Confesser de sa bouche le mal qu'on a fait pour que Dieu nous en libère et qu'il soit juste oublié. Moi, je dirais, il n'y a qu'une prière pour moi. Dans quel domaine tu me demandes de me repentir? Juste pour moi, pas mon voisin, juste pour moi. Nous voulons que l'Esprit nous parle, mais il nous parle. Il est là. On peut résister à l'Esprit. Dieu ne contraint jamais, Dieu n'oblige jamais. Il nous parle avec douceur. Dans Hébreux 3,7, il dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne vous occupez pas des autres. » Réalisez, comprenez l'amour de Dieu. Votre objectif, c'est la liberté en Christ. Vous, votre part, c'est ce qu'il y a entre. C'est ce qu'on fait chacun. C'est pour Zachée descendre de son arbre, c'est pour l'aveugle recouvrir la vue, c'est pour le jeune homme riche vendre ses biens. C'est votre part, vous êtes libre, le faire ou pas le faire. C'est confesser, s'humilier devant son Dieu. Parce que confesser, c'est quelque part s'humilier, c'est accepter de descendre de son orgueil. Et l'humilité, c'est la véritable attitude de cœur qui nous permet de répondre à ce que nous dit l'Esprit. Alors ma prière et ma seule prière pour nous, c'est ne ratez pas cette si belle possibilité d'expérimenter le pardon de Dieu, son amour qui vous remplit, et la liberté réelle qu'il donne quand on confesse son péché. Tous ceux d'entre nous qui l'ont expérimenté, ne dites pas « je l'ai vécu », vivez-le, vivons-le, moi le premier au quotidien, jour après jour. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu veux nous conduire sur cette voie de l'éternité. Parce que ton esprit veut ouvrir les yeux de notre cœur. Merci de nous donner une bonne vue sur nous-mêmes. Amen.